Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 400 ans, un certain Michel Romanov était porté par les boyards au trône de Russie. C'était le début d'une dynastie de tsars qui allait durer un peu plus de 3 siècles. Eh bien, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur Europe 1 sur une histoire. Quelle histoire tourmentée. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour les 400 ans de l'avènement des Romanov, un certain nombre d'ouvrages ont déjà été publiés. Aucun n'aura ni l'éclat ni l'évidence de celui que fait paraître chez Fayard Hélène Carrère d'Encausse. L'ouvrage s'appelle « Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang ».
C'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion d'évoquer les grands tsars Romanov.
Ah oui, Pierre Ier, Catherine II, de Alexandre Ier, là, récemment, ou bien, évidemment, le dernier, le martyr, en somme, Nicolas II. Aujourd'hui, en compagnie d'Hélène Carrère d'Encausse, ce sont des figures nettement moins connues que j'aimerais ressusciter pour vous. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la tsarine Catherine Ière, et Anna, et Elisabeth? Qu'est-ce qu'on sait de Nicolas Ier, d'Alexandre II, et même d'Alexandre III, dont le pont parisien est finalement la seule chose qui soit restée dans nos mémoires? Pour nous parler du décor derrière les tsars et les tsarines, j'ai demandé à l'ami Emmanuel Ducamp de nous rejoindre. Il connaît les palais impériaux russes comme personne.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ce furent, il y a un siècle tout rond, les derniers feux de la Russie impériale. Au début de 1913, donc entre les événements révolutionnaires de 1905 et l'effondrement du régime en 1917, alors même que les réformes lancées par le grand ministre Stolypine, assassiné 18 mois plus tôt, produisent des effets spectaculaires, en cette douce année 1913, qui précède le basculement du monde dans la guerre, la dynastie des Romanov célèbre son tricentenaire. Aux oreilles des pétersbourgeois, les canons de la forteresse Pierre et Paul et les cloches de la cathédrale Saint-Isaac retentissent à la gloire du tsar et de ses ancêtres. De grandioses cérémonies vont conduire la famille impériale de la capitale européenne de l'empereur Pierre à la capitale de la vieille Russie, Moscou, qui vit couronner tous les tsars, nous dit Hélène Carrère d'Encausse. Puis elle s'en ira à travers son empire, s'arrêtant à Kostroma, la ville construite au bord du grand fleuve russe, la Volga, d'où partit la dynastie dont on fête la longue histoire en cette année de gloire. C'est là qu'un tout jeune homme, Michel Romanov, fut choisi en 1613 par la Douma des boyards pour monter sur le trône de Russie. La dynastie Romanov en 1913, c'est cette vieille famille qui avance en tête d'un long cortège et devant laquelle viennent s'incliner les foules amassées sur le bord des routes ou des fleuves, un couple impérial triomphant, 4 belles princesses et, seule ombre au tableau, un enfant de 9 ans, pâle, frêle, porté par un matelot. C'est pourtant le tsarévitch Alexis, l'héritier du trône, l'avenir de la dynastie. Et Hélène Carrère d'Encausse ajoute « Dans ce périple, la famille impériale peut découvrir ce qu'est son empire, un espace immense dont les dernières frontières, celles qui le séparent de la Perse, viennent tout juste d'être fixées. Une population considérable, 125 millions d'habitants, qui n'a cessé d'augmenter et qui offre de la Russie l'image d'une étonnante diversité, peuple de toutes origines, de toutes cultures et religions, sédentaires et nomades, pareille mosaïque humaine, n'existe alors nulle part ailleurs. 100 ans plus tard, nous qui savons comment va finir l'aventure, nous qui savons que ces cérémonies de 1913 précèdent de peu le désastre pour la dynastie des Romanov, nous portons sans doute un autre regard sur ces 15 souverains qui se sont succédés de Michel Romanov à Nicolas II à travers 3 branches de la famille succédant à Michel et à son fils Alexis, les Miloslavski, les Narishkin et les Holstein-Gottorp. Nous allons entrer bien sûr dans le dédale de cet arbre généalogique dans un instant. Et nous goûtons notamment cet ironique clin d'œil de l'histoire, le monastère de Kostroma, dont était parti Michel Romanov pour devenir tsar, s'appelait le monastère Ipatiev. Eh bien, 3 siècles plus tard, la maison d'Yekaterinbourg où sera assassiné le dernier tsar aura pour nom la maison Ipatiev. En 2013, L'une des promenades favorites des moscovites est le parc de Kolomenskoïe au sud de Moscou, situé sur une hauteur qui domine une boucle de la Moscova. Ce vaste enclos arboré, sillonné de chemins propices au footing, est aujourd'hui un musée à ciel ouvert de l'habitat russe traditionnel. On y trouve la grandiose église de l'Ascension, ronde et blanche avec son immense flèche de pierre, un dôme plus exactement. Et enfin, c'est un dôme triangulaire, c'est assez spécifique, assez extraordinaire. Et puis, près de là, on trouve d'ailleurs sous la galerie couverte de cette église de l'Annonciation, le trône depuis où s'asseyait Ivan le Terrible pour contempler le paysage et pour voir au loin se dessiner les clochers de Moscou, les bulbes, devrais-je dire, de Moscou. Et puis, tout près de là, a été reconstruit assez récemment, c'était en 2009, un gigantesque palais de bois qui est censé être la réplique du palais du tsar Alexis, le fils de Michel, le père de Pierre le Grand, une sorte d'isba, si je puis dire, de plus de 300 pièces avec quelques 3000 fenêtres. C'est dans ce cadre grandiose mais encore traditionnel qu'il faut imaginer les débuts de la dynastie, au temps où le nom des Romanov ne faisait pas encore rêver le monde.
Un extrait sur Europe 1 de La fiancée du tsar, extrait de l'opéra en quatre actes, interprété par Yehudi Menuhin. À tout de suite sur Europe 1. Et pour évoquer les 400 ans des Romanov, vous recevez Franck aujourd'hui sur Europe 1, Hélène Carrère-Dancoz, qui est membre de l'Académie française, historienne spécialiste évidemment de la Russie.
Bonjour Hélène Carrère-Dancoz, merci d'être venue nous parler de ces Romanov nimbés, si je puis dire, d'auréoles dorées sur la couverture de votre ouvrage chez Fayard. Hein. C'est une sorte d'icône de la famille en martyr. Hein,
ce n'est pas une sorte, c'est une des icônes qu'on a faites. Et je crois que c'est la plus belle, j'en ai vu beaucoup. Celle-là, je l'ai achetée à Gatchina. Et j'ai trouvé que ça illustrait très bien, symboliquement, toute l'histoire de la dynastie.
Alors, puisque vous parlez de Gatchina, c'est le moment d'accueillir Emmanuel Ducamp. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de l'émission. Vous connaissez, vous, tous les palais impériaux russes. C'est tout à fait extraordinaire. Et on peut dire un mot de celui de Gatchina, qui est d'ailleurs un des moins connus, au passage.
Il est un des moins connus, en effet. Il a été construit pour Grégoire Orlov. C'était une espèce de cadeau pour ses services rendus. Mais il a rapidement... il est tombé dans l'escarcelle de la famille impériale, puisqu'il a été racheté par Catherine II, qu'il l'a donné à Paul Ier.
Alors, il faut évidemment, dans une émission consacrée à cette dynastie des Romanov, et c'est ce que vous faites, vous, Hélène Carrère-Dancoz, vous consacrez deux chapitres immenses, si je puis dire, à Pierre le Grand et à Catherine II, bien entendu, mais vous parlez de tous les autres, évidemment. Et ce que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui, c'est précisément que nous consacrions un peu plus de temps que d'habitude à des tsars, et surtout des tsarines, auxquelles on n'a pas l'habitude de consacrer du temps. On peut dire que les Français connaissent des Romanov essentiellement la dernière famille, l'ultime, les fameux martyrs que vous avez mis en couverture de votre ouvrage.
Oui, à la rigueur, Catherine II, qui a une réputation sulfureuse, alors que sa réputation mérite tout à fait un autre hommage.
Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est qu'un aspect très secondaire.
Ça n'est qu'un aspect et même
très exagéré, d'ailleurs. Hein, c'est ça.
C'est ce que Mais enfin, c'est ça que m'en retient, en général.
Oui, bien entendu. Alors, c'est en même temps une histoire qui est constamment mystérieuse, celle des Romanov. Elle est émaillée, littéralement, d'énigmes historiques. Alors, il y a celle, évidemment, de la toute fin des Romanov à l'été 1918, sur laquelle on ne reviendra pas du tout aujourd'hui. Il n'empêche, vous avez reçu, me disiez-vous avant que ne commence cette émission, la lettre d'un monsieur qui prétend avoir vu, il n'y a pas si longtemps que ça, le tsar Nicolas II en vie.
Oui, j'ai reçu une lettre d'un médecin qui me raconte qu'il a vu Nicolas II pas n'importe où. D'abord, pas n'importe quand, puisque c'était il y a 30 ans, d'après sa lettre. Donc Nicolas II aurait dépassé le siècle. Mais enfin, il est très précis et ça n'est pas un illuminé, mon interlocuteur. Et il prétend l'avoir vu à Soukhoumi, c'est-à-dire en Abkhazie. On ne voit pas très bien ce que Nicolas II aurait été y faire. Bon. Mais l'intéressant, c'est que ça s'inscrit dans cette continuité du tsar disparu, du tsar caché, de celui qui doit réapparaître, du bon et du mauvais tsar. Et ce qui m'a paru fascinant, c'est tout de même qu'un homme qui est éduqué, un médecin a fait des études, reprenne aujourd'hui cette mythologie qui a traversé toute l'histoire russe. Et on peut dire que constamment, et cette icône aussi a une signification, constamment on a l'idée qu'il y a un bon tsar qui a disparu mystérieusement. Même Pierre le Grand a été l'objet de ce genre de mythologie. Et que celui qui a disparu n'était pas le bon, pas le vrai, mais que va réapparaître le bon. Et la société l'attend, elle l'attend comme le sauveur.
Il y a une dimension mystique, évidemment, dans le règne russe, hein, c'est évident. Et il y a aussi une dimension paternelle, justement, y compris quand c'est une femme qui est sur
même,
le trône.
Même parce que c'est, l'image de la Russie, c'est une image, en trois morceaux. Il y a le tsar, Batyushka, le petit père, exactement, et Staline avait d'ailleurs repris cette mythologie du petit père. Il y a la terre, c'est la mère Russie, Matushka, et il y a le peuple, c'est-à-dire la terre nourricière et le peuple. Et ce sont ces trois personnalités qui, sous le regard de Dieu, par la volonté divine, font avancer le destin de la Russie. Alors ça explique véritablement, au fond, que les Russes ont toujours attendu, et la masse de superstitions qu'ils aient toujours attendu quelque chose. Et je dirais que ces superstitions, elles ont même été très profondes dans la tête des souverains. Nicolas II a toujours pensé qu'un malheur l'attendait, il a toujours dit qu'il était comme Job sur son fumier, sachant qu'un destin terrible allait s'abattre sur lui. Et on peut dire qu'à peu près tous les souverains, sauf probablement Pierre le Grand qui était très rationnel, avaient la certitude que quelque chose de tragique planait sur eux. Et l'histoire russe est faite de signes symboliques.
Et tellement de ces souverains ont été assassinés, je pense évidemment à Paul Ier, Alexandre II,
Il y a une succession, soit de souverains assassinés, soit de souverains qui assassinent quelqu'un.
Oui, c'est ça.
Et ça a commencé avec bien avant les Romanov, c'est-à-dire ils s'assassinaient entre eux pour prendre le pouvoir. Des familles entières se sont exterminées. Les règles de succession faisaient cela. Bon, Ivan le Terrible a fait assassiner son propre fils. Pierre le Grand a fait assassiner son propre fils sous ses yeux. Alexandre Ier est probablement complice, passif, mais enfin, savait ce qui allait arriver à son père.
Ça s'est passé en tout cas dans la pièce au-dessus de sa propre chambre.
Hein, il savait que quelque chose se préparait. Donc on peut dire, le malheureux Alexandre II a été lui assassiné par son peuple. Mais
on va y revenir tout à l'heure, parce que ça, c'est un cas très, très particulier.
Mais enfin, on peut dire que la mort plane sur cette dynastie, et le peuple a toujours eu cet ensemble de superstitions. Le malheur qui suit la famille, d'ailleurs la dernière famille impériale, on disait, le malheur les accompagne ou la mort les accompagne. C'est une phrase classique.
Et c'est finalement le malheur russe, en quelque sorte, hein, qui est incarné par cette famille. Est-ce que pour le quatrième centenaire, vous qui êtes toujours soit en partance pour Moscou, soit en arrivée de Saint-Pétersbourg, Emmanuel Ducamp, est-ce que pour le quatrième centenaire, les Russes ont organisé de grandes festivités?
Oui, parce que ils sont persuadés qu'une partie de leur gloire, c'est leur histoire. Et c'est donc l'histoire de leur dynastie. Même si, comme Madame Carrère d'Encausse vient de le souligner, cette histoire est entachée de sang. Ils ont une espèce à la fois d'affection, de respect, qui pourrait être celui qu'on a pour son père. Et je pense qu'ils osent toujours en eux ancrer ce désir de voir des personnages plus grands que nature régner au-dessus d'eux. L'histoire explique aussi le présent. C'est à ça qu'il faut penser encore aujourd'hui. Nous voyons les dirigeants de la Russie avec un œil, j'allais dire, modulé par notre histoire et par la révolution. Eux le voient toujours, je dirais, d'une façon un peu qui s'allonge. Les choses n'ont pas tellement changé depuis 1917.
Alors, vers l'Orient russe compliqué, nous allons voler avec des idées simples, et la simplicité est souvent la sœur de la chronologie. Je vous propose donc de revenir à l'origine même de cette dynastie. Lorsque Michel Romanov monte sur le trône, on est en 1613.
Europe 1. Les diverses pollutions intérieures et extérieures impactent tous les jours notre santé un peu plus. Alors aujourd'hui, Elena et ses experts vous diront comment respirer enfin un air sain, ce dès 14h. Ils attendent évidemment vos témoignages et vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à écrire sur europe1.fr et à les appeler au 3921, 34 centimes d'euros la minute.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 aux Romanov, nous vous retrouvons Franck avec vos invités, Hélène Carrère-Dancausse, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française, ainsi qu'en compagnie d'Emmanuel Ducamp, qui est historien d'art.
Je parlais tout à l'heure, Emmanuel Ducamp, de ce palais de bois de Kolomenskoïe. C'était le palais du tsar Alexis, en fait.
Oui, c'est ça. qui est en effet une isba à puissance 250.
C'est gigantesque.
Et moi, ce qui me frappe quand je vois ce palais, c'est qu'il a été détruit, pas avant la Révolution, il a été détruit sous le règne de Catherine II. Parce qu'à l'époque, on considérait qu'il était à la fois mal commode, démodé,
oui, enfin.
Et qu'on n'avait aucune raison de le conserver. Eh bien, les Russes aujourd'hui, et la ville de Moscou, a considéré que c'était presque un devoir de le faire renaître. C'est ça que j'aime aussi chez les Russes. Impossible, on nous dit, ça n'est pas français. Impossible, ça n'est pas russe. Ils ont reconstruit cet énorme palais de bois qu'ils ont meublé. Certains spécialistes y diront d'une façon un peu approximative. Mais je trouve que c'est passionnant parce que ça montre que le peuple est enraciné aussi dans son histoire, même si le palais n'occupe aujourd'hui pas l'emplacement qu'il avait à l'origine.
Alors c'est toujours un peu difficile d'évoquer les débuts d'une dynastie puisqu'on est par définition dans un moment de chaos. Chacun essaie de pousser ses avantages. Et dans le cas de Michel Romanov, rien ne le prédestinait spécialement à devenir le tsar.
Rien du tout. Et je crois qu'on peut dire juste en préface que la Russie a failli périr comme pays exactement avant la naissance, quelques années et quelques semaines avant la naissance de la dynastie, puisque le temps des troubles et des faux...
C'est le nom qu'on donne Dimitri, à cette période de l'histoire.
Exactement, et des faux Dimitri, puisque on ne savait plus qui était l'héritier. Il y avait une succession de faux Dimitri. Après cela, les puissances voisines, essentiellement la Pologne et la Suède, se sont dit que c'était le moment de placer sur le trône de Russie, puisqu'il n'y avait plus la lignée qui avait gouverné la Russie, la Moscovie. La lignée de Rurik, c'est une lignée historique.
Les grands ducs de Moscovie.
Voilà, qui était vraiment... très prestigieuse, était éteinte. Et les Polonais et les Suédois se sont dit que c'était le moment de porter un héritier sur le trône de Russie. Donc la Russie a failli disparaître avec un prince étranger. Et c'est là, véritablement, qu'a eu lieu ce coup de tonnerre, c'est-à-dire la réunion de la Douma des Boyards, qui a...
Donc les Boyards, il faut dire, sont les grands seigneurs.
Ce sont les grands seigneurs. Et la Douma, c'est ça qui est très intéressant, c'est tout de même un processus démocratique d'élection. Et... il y avait des candidats au trône qui se poussaient, et notamment le prince Pajarski et le boucher Minin, tous deux qui ont réussi à sauver la Russie des Polonais. Et évidemment, ils considéraient qu'il était un candidat parfaitement légitime au trône. Et les boyards ont décidé d'élire un jeune homme de 16 ans qui se trouvait dans un couvent, totalement inconnu. En plus, les Romanov avaient... en tant que Romanov, il n'était pas spécifiquement russe. C'était une lignée venue d'Allemagne qui s'appelait Kobola, le premier André Kobola. Mais ils étaient apparentés la lignée d'Ivan le Terrible. Donc ça leur donnait une certaine légitimité par les femmes. Et on a choisi ce jeune homme dont le père était... Au fond, le père aurait pu être un très bon héritier. Le père était un ecclésiastique de haut rang qui n'avait pas choisi d'être ecclésiastique, qui avait été poussé... pour des raisons politiques.
Décidément que de destin forcé, en quelque
tout
sorte.
Tout est forcé. Ouais. Il a été poussé dans l'état ecclésiastique par force, au fond, pour dégager le terrain, c'est ça la vérité. Il était prisonnier des Polonais, et c'est son fils que l'on a choisi. Mais curieusement, alors le fils, déjà, ça a été compliqué, parce que la mère du fils n'était pas du tout enchantée. Ils étaient tout à fait à l'abri dans ce couvent. Où ce qui a donné une légitimité à ce garçon, c'est que beaucoup de gens dans ces guerres quasi civiles, du temps des troubles et dans les guerres étrangères où les Polonais ont joué un rôle considérable, ce jeune homme a été à l'abri dans son couvent de toute compromission. Ce qui lui a donné, si vous voulez, le caractère de quelqu'un à qui on ne pouvait rien reprocher. Mais sa mère a beaucoup hésité avant de donner la permission. En définitive, tout de même, elle a accepté, très difficilement. Il est monté sur le trône et quand son père est revenu... mais il est monté sur le trône regardant vers son père. Et quand le père est revenu de son camp de prisonniers, quand il a été libéré par les Polonais, il a partagé le pouvoir avec son fils. Voilà. Il a été co-souverain avec son fils. Et je dirais que ça, c'est le caractère, vous l'évoquiez tout à l'heure, le caractère quasi religieux de cette dynastie. C'est-à-dire que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont complètement mêlés. Oui. Tous les actes étaient signés par le père et le fils. Ils étaient grands souverains tous les deux, c'était leur titre. Et on peut dire que le pouvoir spirituel donnait sa légitimité au pouvoir temporel. C'est ça, véritablement, qui compte dans l'origine de cette dynastie. Et jusqu'au bout, on retrouvera ça, si vous voulez, à la fin de la dynastie.
Alors, une des premières grandes surprises qui attend le lecteur dans votre ouvrage sur les Romanov, Hélène Carrère-Dancos, c'est la figure de Michel le Très-Doux, qui est totalement oublié. Je vous avoue que moi-même, j'avais un peu fait
l'impasse.
D'Alexis, le Très-Doux. figure totalement oubliée. Et à laquelle vous rendez hommage, ça c'est formidable.
D'abord c'est le père de Pierre le Grand,
ouais, voilà.
Premièrement, ça c'est déjà un titre de gloire extraordinaire. Mais son second titre de gloire, c'est là, il a été marié deux fois. Et sa seconde femme c'était Nathalie Narushkine, ce qui donne, je dirais, la gloire aux Narushkine. Souvent, je vois des Narushkine qui se sont parés du titre de prince, et je dis, quand on appartient à la famille de la mère de Pierre le Grand, on n'a pas besoin d'un titre. Mais c'est Alexis le Très-Doux. Il n'était pas tout à fait très doux, d'ailleurs. Mais c'est un personnage tout à fait étonnant, parce qu'on le représente toujours dans les habits traditionnels de la Russie. Et en même temps, il a ouvert la voie à son fils. Il a été passionné par le monde occidental. Il voulait envoyer des adolescents étudier en Occident. Il a importé des artisans du monde européen. C'est-à-dire qu'il a été véritablement l'héritier de l'obsession russe. La Russie a été coupée du monde occidental par les invasions mongoles. Du XIIIe au XVIe siècle, son obsession a été retourner dans le monde occidental, redevenir européen. Et on peut dire que Pierre le Grand a hérité de ça.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire des Romanov, Franck.
Nous allons essayer de rester fidèles à ma promesse et de ne pas trop parler de Pierre le Grand et de Catherine la Grande, qui sont évidemment les deux grands souverains de cette dynastie Romanov, les plus célèbres en tout cas en France. Un mot quand même de Pierre le Grand, il faut expliquer à quel point il a alors lui fait entrer la Russie dans la modernité.
Il avait une enfance dramatique. Parce qu'il avait assisté à toutes les tueries, on avait exterminé sa famille. Donc, si vous voulez,
c'est incroyable qu'il ait réussi à surmonter tout ça. D'ailleurs.
Il a surmonté tout ça, mais c'était extrêmement traumatisant. Il avait vraiment vu, sous ses yeux, torturer les siens. Parce que les deux familles, vous avez évoqué les Miloslavski et les Narushkine, qui essayaient chacun de pousser leur rejeton. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils exterminaient tous ceux qui étaient à portée de main. Et quand il est devenu, je veux dire, quand il avait tout de même déjà la capacité de régner, il a voulu partir à l'étranger voir le monde. Il a fait cette première expédition. On confond toujours, et quand on parle du voyage de Pierre le Grand, les gens qui ont lu Saint-Simon disent « Ah oui, oui, on a lu ça dans Saint-Simon. »
Ah oui, on confond, c'est le voyage officiel bien plus
Absolument.
Tard.
Absolument.
Oui,
Or, sûr. Le premier était beaucoup plus intéressant, car Pierre le Grand est parti avec toute une suite habillée en marchand, au grand scandale de ses compatriotes, sous un nom d'emprunt. Et il est allé courir toute l'Europe pour voir les techniques, pour voir ce qui se passait. C'était un personnage très haut en couleur. Et ce qui est très intéressant, je crois que c'est ça qui mérite d'être souligné, le seul, partout on savait qui était ce personnage étrange, le seul souverain qui n'y ait pas prêté attention, c'est le roi de France, Louis XIV, qui considérait, c'est important pour les relations franco-russes même aujourd'hui,
Oui. Il
a considéré que ce pays bizarre, tout à fait barbare, ne méritait pas qu'on s'arrête sur la personne du jeune souverain qui courait le pays. Donc il a couru le monde, puis il est revenu. Précisément parce que sa sœur avait fomenté encore une révolte.
De plus.
Bon, il a enfermé dans un couvent. On enfermait tout le monde dans un couvent. Il a enfermé sa propre femme. Il a enfermé Sophie. Les femmes finissaient leur jour dans un couvent, en général. Elle en est sortie une fois pour refaire une autre révolte. Mais il a fini par prendre le trône en main.
Il va ouvrir la Russie en installant une nouvelle capitale, littéralement sur la mer, ou à proximité, en tout cas ouverte sur la mer. Ça va être Saint-Pétersbourg, ça. C'est l'acte fondateur de la Russie moderne.
Oui, c'est sans doute, d'ailleurs, en termes, j'allais dire, d'histoire de l'art ou de l'architecture, l'événement le plus incroyable de tout le XVIIIe siècle. Fonder une capitale, transporter toute une cour, obliger... sa cour et ses aristocrates, même s'ils ne le veulent pas, à venir s'installer, construire des maisons, leur en faire construire ici, et puis ensuite leur dire que non, il vaut mieux qu'ils aillent de l'autre côté de la Neva, tout le monde pestant, maugréant, et à force, créant une des plus belles villes de toute l'Europe.
Alors cette ville, elle va évidemment prendre une importance considérable plus tard, sous les règnes d'Anna et surtout de l'impératrice Élisabeth. Elle prendra sa forme définitive sous Catherine. Donc elle est ce joyau d'architecture et d'art que nous connaissons aujourd'hui. Quel est aujourd'hui l'héritage de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Ducamp ?
Oh, moi, l'endroit que je préfère peut-être, c'est sa petite maison de bois, où il a habité en 1703, qui est toujours conservée, qui a été enchâssée dans une autre maison de briques au 19e siècle, et où vous voyez son bureau, très simple, peut-être même fruste, l'espèce de barque dans laquelle il naviguait sur la Neva, et qui est vraiment, j'allais dire, on touche du doigt l'histoire de la Russie et de Pétersbourg qui est en train de se transformer.
Je vous propose d'entendre « Dieu garde le tsar », c'est l'ancien hymne national de l'Empire russe par les armées de la Russie impériale.
Un extrait sur Europe 1 de l'ancien hymne national de l'Empire russe, Dieu garde le tsar, et place maintenant au récit de cœur de l'histoire avec vous, Franck.
Les obsèques du tsar Pierre le Grand ont eu lieu le 8 mars 1725 sur fond de querelles entre la noblesse de cour, attachée déjà à la ville de Pierre, donc bâtie sur la Neva, et les boyards moscovites soutenus par l'Église et qui auraient aimé profiter du changement de règne pour ramener d'abord la dépouille du tsar à Moscou et par la même occasion pour y ramener le pouvoir, évidemment, dans cette capitale traditionnelle. Celle qui va succéder à Pierre est sa seconde épouse, Marta Skavronska, qu'on connaît sous son nom de règne de Catherine Ière, succession sans encombre, nous dit Hélène Carrère d'Encausse, c'est elle qui monte sur le trône. La conséquence principale de ce choix, nous dit Hélène Carrère d'Encausse, fut de frayer le chemin du trône aux femmes. Et on va voir qu'une fois le chemin frayé, les femmes vont s'y installer sur ce trône de Russie. Il faut dire que Catherine, nous allons l'appeler d'emblée Catherine si vous le voulez bien, avait connu Pierre le Grand 23 ans plus tard en 1702. Alors, je vais vous raconter son histoire en quelques mots. Tout commence au siège de Marienbourg, qui est une place suédoise. Le maréchal russe Cheremetiev vient d'ordonner l'assaut final et celui qui commande la place pour les Suédois décide de tout faire sauter. Simplement, on lui envoie quand même une ambassade pour lui demander de bien vouloir, s'il le pouvait épargner la population civile, ce que veut bien le commandant suédois. Et parmi ceux qui vont se sauver, en quelque sorte, qui vont quitter la ville avec sinon armes, du moins bagages, se trouve un pasteur, un certain Gluck, qui voyage avec sa servante, qui est une jolie fille de 17 ans. La servante en question, c'est une fille de paysans pauvres, de la Livonie suédoise, donc les Skavronski. Ses parents ne pouvant même pas la nourrir l'ont abandonnée à ce pasteur. Il faut dire qu'elle ne sait ni lire ni écrire et elle fait tout simplement le ménage chez le pasteur en question. Alors là voilà qui fuit avec le pasteur. En vérité, ils ne vont pas aller très loin puisqu'ils sont très vite arrêtés par les avant-postes russes. Conduit chez Cheremetiev parce qu'on se dit que ce pasteur qui brandit constamment sa Bible livonienne pourrait peut-être donner des renseignements utiles aux Russes. Et Cheremetiev est de bonne humeur ce jour-là. Il laisse partir le pasteur, mais au moment où le brave homme se retourne vers sa servante pour lui faire signe de l'accompagner, « Non, 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 dit-il, la servante, elle reste avec moi. » Et elle reste tellement bien. Alors le pasteur proteste, mais peu importe, la servante va rester. Et le soir même, elle partage le lit, évidemment, de Cheremetiev, qui va trouver beaucoup de charme et d'agrément à cette jeune paysanne, qui va l'emmener avec lui jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et là, elle croise le chemin d'un autre grand personnage, c'est Menchikov, qui lui aussi la trouve à son goût, et comme Cheremetiev a peut-être fait le tour des charmes de la jolie paysanne, c'est finalement c'est Menchikov. Alors, on est là très proche, dans le cercle le plus rapproché du tsar Pierre le Grand, c'est Menchikov qui va faire de Catherine sa maîtresse. Et puis, c'est ainsi, évidemment, qu'un jour, alors qu'il vient rendre visite de manière impromptue à son ministre et conseiller, c'est comme ça que Pierre le Grand va faire connaissance de Catherine. Voilà ce que nous dit monsieur de Villebois, qui a assisté à la scène. Le souverain la regarda beaucoup, la questionna, lui trouva de l'esprit et termina le badinage avec elle en disant qu'il fallait, lorsqu'il irait se coucher, qu'elle portât le flambeau dans sa chambre. C'était un arrêt sans appel, quoique prononcé en riant. Oui, il y a des façons de dire les choses. Il pouvait arriver au tsar Pierre de rire, la preuve. Il paraît même que ça lui arrivait. C'est assez paradoxal par rapport à l'image qu'on en a conservée. Il paraît que ça lui arrivait assez souvent. Finalement, Catherine, qui ne devait n'être qu'un amusement pour le tsar, va rester dans ses appartements privés. Elle va y rester, elle va s'y installer. Et l'on voit bientôt le tsar tomber amoureux de Catherine. On en a la preuve puisqu'on possède 223 lettres de Pierre le Grand à Catherine, qui sont d'ailleurs des lettres extrêmement agréables à lire, pleines d'émotions, et qui nous montrent un Pierre le Grand très différent, là encore, de l'image qu'on a pu en conserver. Cette Catherine va se révéler une femme de tête, d'excellents conseils, ne donnant ses avis que lorsqu'on les lui demande. Elle est à la fois très discrète et très fiable, très forte. Et à l'issue d'une campagne supplémentaire, dans les méandres de laquelle je ne vais pas m'aventurer,
Pierre le Grand, qui lui avait promis, s'il s'en sortait vivant, de l'épouser, va tenir sa promesse. Et le 19 février 1711, à 7h du matin, dans la petite chapelle du prince Menchikov, Pierre le Grand épouse l'ancienne fille de ferme. Il épouse cette princesse sans aucune... Enfin, cette princesse, non, cette femme, précisément, sans aucune ascendance. Elle n'appartenait à aucune lignée. Alors, on avait vu quelques années plus tôt... Nous savons, nous, maintenant, que Louis XIV avait épousé de manière morganatique Madame de Maintenon, qui était la veuve du poète Scarron. Mais il y a quand même une marge. Là, le tsar épouse carrément une ancienne fille de ferme, dont certains ont même prétendu qu'elle avait été esclave. Et c'est mieux que ça. Le 10 mai 1724, se sentant faiblir lui-même et voyant sa fin approcher, le tsar Pierre va vouloir couronner Catherine. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permettra de succéder au tsar. Et l'on va voir cette extraordinaire cérémonie de toute la cour avançant vers la cathédrale du Kremlin pendant que les cloches sonnent à toute volée et qu'au loin retentissent les canons. Catherine a revêtu une robe pourpre brodée d'or et rebrochée d'or, dans le style espagnol, nous disent les chroniqueurs. Elle est couverte de perles, de diamants. Elle porte, vous savez, la grande coiffe traditionnelle de la Russie. Et 5 dames du palais portent sa traîne ce jour-là en la cathédrale du Kremlin. L'archevêque de Novgorod va procéder au sacre de Catherine.
L'histoire des Romanov, précisément, cet après-midi avec vous sur Europe 1 Franck.
Nous voyageons au cœur de la Russie impériale et nous sautons de branche en branche sur l'arbre généalogique des Romanov. Alors encore une fois, c'est très compliqué, hein, la succession de Pierre le Grand, Catherine Ière, et puis alors après elle, on change de branche, on s'en va chez les Miloslavski, on revient ensuite chez les Narychkine, etc. Ce qui importe, c'est le règne de la 1, 2, 3, 4e, celle qui va succéder à Catherine, à la 4e place, hein, celle qui, après toutes sortes d'atermoiements, c'est la tsarine Elisabeth, grand personnage.
Bah, fille de Pierre le Grand. Parce que jusque-là, la dynastie avait été rompue puisque Pierre le Grand avait assassiné son propre fils. Je voudrais juste dire un petit mot, c'est que Pierre le Grand, lorsqu'il avait épousé Catherine, ils ont eu une douzaine d'enfants, et il a eu un fils, son dernier fils, qui s'appelait Pierre, est né en même temps que le fils de son fils Alexis qu'il avait assassiné, c'est-à-dire de l'héritier légitime. Et un temps, on a pensé que l'héritier, il a voulu que l'héritier soit ce nourrisson. Mais évidemment, le nourrisson est mort en bas âge et ça a réglé le problème. Puis il y a eu une série de désordres de femmes empruntées à l'autre branche. Si ce n'est que, tout de même, il faut ajouter que Catherine Ière a eu un mérite. Elle a été poussée sur le trône, vous l'avez sauté, mais permettez-moi de le dire, elle a été poussée sur le trône par Menchikov après la mort de Pierre le Grand. Il a repris la main, il y avait un débat, et c'est Menchikov qui a décidé qu'elle monterait sur le trône. Elle n'y est pas restée longtemps,
elle est morte rapidement. En 27, hein, oui.
Mais le mérite qu'elle a eu, c'est de vouloir établir la succession véritable, et elle a pris pour héritier, elle a choisi pour héritier le fils de cet Alexis, que son mari avait fait assassiner. C'était un jeune homme charmant, seulement malheureusement, il est mort à 16 ans, au moment où il allait se marier et où il était l'empereur, mais il n'a pas pu régner. Sa mort prématurée, il a attrapé la variole. Et du même coup, après des tas de successions, la fille de Pierre le Grand était toujours là, dans l'ombre.
Elisabeth.
Et sa cousine, qui a été régente un moment, Anna, la seconde Anna, sa cousine a voulu se faire couronner. C'était une intrigante, jeune, mais malgré tout intrigante, qui a voulu se faire couronner. Et Elisabeth, qui jusque-là était restée tranquille, dans l'ombre, sans rien dire, a tout de même compris que c'était le moment ultime où on prenait le pouvoir, sinon on n'y arriverait pas.
Ça va être son coup de majesté, si l'on peut dire.
Ça a été son coup de majesté, et comme elle avait assisté pratiquement à un coup d'État de sa cousine, elle s'est dit que la bonne solution, c'était de faire un coup d'État. C'est là que commencent les coups d'État fomentés avec l'appui de la garde. C'est très amusant dans l'histoire russe. Tout d'un coup, les candidats au pouvoir découvrent la bonne technique pour arriver au pouvoir dans cet imbroglio.
Ils vont s'en servir de génération
en
génération.
Hein. Et alors, Elisabeth, qui était une très jolie femme, a commencé en habit de colonel de la garde par sillonner les casernes des régiments les plus prestigieux. Elle s'est attachée ces jeunes gens de la garde et un beau soir, elle a fait irruption dans la chambre de la régente pour lui faire savoir que ça c'était fini, qu'elle n'avait plus qu'à dégager et que c'était elle qui montait sur le trône. Elle a été portée sur le trône comme ça. Et elle a, je dirais, elle a été une impératrice, monsieur Ducamp ne me démentira pas, qui a joué un rôle considérable dans l'embellissement de la capitale.
Vous ne démentez pas.
C'est elle qui fonde, j'allais dire, la vraie ville. Parce que la ville de Pierre, c'était une ville de maisons de bois, quelques bâtiments publics, quelques palais, mais qui étaient relativement petits. L'empereur lui-même n'avait pas des goûts très luxueux. Son palais, qui est au bord du jardin d'été, est assez simple. Menchikov avait des goûts plus luxueux que son maître. Et Élisabeth Ier, c'est elle qui... Elle était peut-être accoutumée aux grands gestes. C'est elle qui fait les grands gestes d'architecture de la ville. C'est elle qui construit le palais d'hiver. C'est elle qui construit l'admirable couvent de Smolny, qui est sans doute un des plus beaux bâtiments baroques de toute l'Europe.
C'était peut-être Rastrelli. Là,
oui, avec l'aide de Rastrelli, le fils. Son père était déjà sculpteur avant lui. Et c'est elle qui construit aussi le grand palais de Tsarskoe Selo, qui sera la résidence favorite de Catherine II. C'est elle qui embellit également le palais de Peterhof. Elle construit la plus belle église toujours visible de la ville, qui est l'église Saint-Nicolas des Marins. C'est une femme qui aime l'architecture.
Oui, et qui aime les arts d'une façon générale.
Qui aime la culture.
Oui.
Parce qu'elle a aimé la langue française, la littérature. Elle a introduit, je dirais, la France véritablement dans son pays. Elle a eu le mérite, je dirais, de vouloir embellir sa capitale. Elle a eu l'immense mérite de vouloir la cultiver. Et elle a eu le mérite de se poser le problème politique. C'était une femme un peu indolente, qui aimait les divertissements, qui était sous l'autorité ou sous l'influence de favoris, mais elle a voulu résoudre la question successorale. Elle savait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et elle a pris pour héritier un petit-fils de Pierre le Grand, celui qui sera Pierre III. Pierre II, c'était
heureusement
l'héritier.
Heureusement qu'elle l'a marié, ce Pierre III. Hein.
Pierre II, c'était l'héritier de Catherine Ier. Pierre III, elle l'a marié, et alors là, c'est là que les choses ont tourné d'une façon très intéressante. Parce que,
et inattendue.
Inattendue. Parce que ce Pierre III, elle l'a choisi. Elle l'a éduqué. Il appartenait à la lignée des Gottorp. Il était plutôt allemand de formation. Il s'intéressait plutôt à ses origines. Il n'avait rien d'orthodoxe et rien de russe. Elle l'a russifié, elle l'a fait venir, elle l'a converti. Et il était très réticent à tout ça. Et ça l'a beaucoup agacé. Et puis alors, elle l'a marié. Elle a senti qu'il fallait faire quelque chose. Elle l'a marié à une princesse d'une maison allemande moyenne, la future Catherine II. Elle ne s'est pas doutée qu'elle avait affaire à forte partie. Et cette Catherine était une personnalité non moins extraordinaire avec laquelle elle s'est heurtée. Mais elles avaient en commun, tout de même, je dirais, ce goût extraordinaire de l'Europe. Ça, c'est vrai. Il n'en est pas moins vrai qu'avec Élisabeth et avec Pierre III s'arrêtent les Romanov, pour dire les choses comme elles sont.
On peut dire que c'est quasiment une autre famille avec Catherine qui va...
Et qui n'est ni allemand, qui n'est russe, ni Romanov. C'est là que les choses vont changer totalement. Il faut le souligner parce que déjà Pierre III, il avait très peu de sang. Il avait peu de sang russe, il n'avait pas tellement de sang Romanov. Mais après, ça disparaît.
Et d'une façon encore plus générale, ce dont on prend vraiment conscience en lisant votre ouvrage, Hélène Carrère-Dancausse, c'est de cette hésitation permanente qu'il y a eu de règne en règne à cette époque, entre une influence allemande et une influence française. L'ouverture à l'Europe est une chose, mais à quelle Europe, c'était la grande question qui se posait.
Un extrait de la valse sentimentale de Tchaïkovski, puisque nous sommes à l'heure russe cet après-midi sur Europe 1, précisément au cœur de l'histoire des Romanov, Franck.
Et me voilà confronté à un choix véritablement cornélien, si j'ose dire ça, à vous, Hélène Carrère-Dancausse, qui occupait le fauteuil de Corneille à l'Académie française. Nous avons encore un grand nombre de souverains et de règnes à évoquer. Il nous reste vraiment très peu de temps. Nous nous sommes attardés sur les débuts de cette dynastie. En même temps, c'était passionnant de voir d'où venaient ces Romanov dont on célèbre actuellement le 4e centenaire. Alors, parmi tous ceux qui restent, nous allons vraiment faire l'impasse sur Catherine, si vous le voulez bien, puisque vous nous l'avez présenté, vous avez mis l'eau à la bouche, mais je renvoie maintenant les auditeurs à votre ouvrage.
Je voulais juste me laisser dire que c'est tout de même elle, Pierre le Grand a fondé l'État, Et elle a créé la société civile. La société civile, le monde de l'intelligence et de la culture. Et ça, c'est capital. Elle a véritablement fait avancer la Russie sur le plan de l'esprit de modernité.
Alors, il y a évidemment un fort recul avec son propre fils, Paul Ier. Hein, c'est un règne que vous décrivez d'ailleurs d'une manière incroyable. C'est très passionnant à lire, ça. Et puis, alors, ensuite vient Alexandre Ier. Nous venons de lui consacrer, il y a quelques semaines seulement, une émission. Alors, on ne va pas revenir sur Alexandre Ier. Je préférerais qu'on en revienne à son frère, Nicolas Ier, dont on ne parle quasiment jamais, alors qu'il est, on peut dire, Emmanuel Ducamp, il est le tsar d'une véritable efflorescence des arts et de la culture en Russie. Hein.
Il est, en fait, pour le 19e siècle, l'équivalent de Catherine II pour le 18e.
C'est ça, voilà.
Et on en parle toujours, il a souffert d'une historiographie assez négative parce qu'il était celui qui avait étouffé dans l'œuf la révolte des décembristes libéraux en 1825. On en a donc toujours parlé comme le tsar de fer.
Oui, c'est ça.
Et on l'a décrit d'une façon un peu caricaturale. En fait, c'est grâce à lui que Saint-Pétersbourg se couvre d'une quantité astronomique de bâtiments. Il fait restaurer tous les palais qui existaient avant lui.
Il en fait
faire construire des nouveaux. Il orne toutes les résidences. Il a un esprit très méthodique, très militaire, comme tous les grands ducs Romanov. Donc il met beaucoup d'ordre dans ce qui n'en avait pas. C'est lui aussi qui crée pour moi l'un des plus admirables musées du monde entier, qui est le Nouvel Ermitage. Il fait venir l'architecte Leo von Klenz pour en dessiner les plans. Il augmente les collections, il comble les manques. C'est un souverain qu'il faut en effet regarder sous un nouvel éclairage.
Je ne demande pas à Hélène Carrère-Dancos son point de vue sur Nicolas Ier parce que ça nous entraînerait trop loin. Et encore une fois, il va être très facile de le connaître. Il suffit tout simplement de lire votre livre, Hélène Carrère-Dancos. Je sais qu'en revanche, vous vouliez évoquer absolument la figure de son successeur, c'est-à-dire Alexandre II.
Oui, je pense que c'est très important parce qu'Alexandre II est sous-estimé. On le connaît essentiellement par sa vie sentimentale, ce grand roman avec Katia qui a fourni des films. Or, derrière cela, il y a un personnage très, très paradoxal, car c'était un homme conservateur, de tempérament, assez rigide, ressemblant véritablement à ses prédécesseurs. Mais il a senti qu'il était dans un pays qui ne pouvait pas continuer, puisque le servage existait toujours en Russie, et qu'il fallait liquider le servage. Et ça n'était pas simple. C'était d'autant moins simple que, je dirais, depuis la révolte étouffée, qu'Emmanuel Ducamp vient de citer, de 1825.
Il faut
dire que l'esprit révolutionnaire gronde en Russie, qu'il y a des mouvements d'idées très forts, que le terrorisme va se développer. Or, il abolit le servage dans des conditions extraordinaires. Il crée d'emblée son père mourant, Nicolas Ier en mourant, lui dit « tiens tout ». Ça veut dire « ne change rien ». La première chose qu'il fait, il enlève le servage. Et vous savez, et ça n'était pas simple, parce que je crois que nous avons une comparaison. C'est ce qu'a fait Abraham Lincoln aux États-Unis. Au même moment, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. 4 millions d'esclaves. Il y a eu une guerre civile effroyable. En Russie, 20 millions d'hommes ont trouvé la liberté, sont rentrés dans la société. Bon, ça lésait un nombre considérable de gens. Hein,
c'est tout un système économique qu'il fallait revoir, en fait.
Et de pouvoir et de relations. Or, ça s'est passé dans une paix totale. Il n'y a eu aucun drame. Il a réussi son opération. Il a réussi d'ailleurs, c'était un fin politique, car il a pris comme responsable son ministre de la Justice. Son ministre de la Justice, le comte Panine, était un adversaire de l'abolition de l'émancipation des paysans. Et c'est lui qui a signé l'acte d'émancipation. Avec ça, il s'est dit, je vais rassurer tous les conservateurs. Les conservateurs ont été roulés. C'était de la fine politique. Mais il a eu contre lui ce mouvement révolutionnaire montant. Et il y a eu une course de vitesse entre les réformes qu'il fait et le mouvement révolutionnaire qui, d'une certaine façon, car je crois que c'était calculé, s'est dit, le calcul que fera Lénine plus tard, si on laisse les réformes, le temps de la révolution n'existera plus.
On va perdre du temps.
On va perdre du temps. Il y a eu cet homme a subi un nombre d'attentats considérables. Ça ne l'a pas empêché d'introduire le service militaire universel. Ce qui est formidable, parce que ça permettait, je dirais, d'insérer dans la société ces paysans émancipés. Il a créé des assemblées locales, les Zemstvo, qui étaient des assemblées qui ont permis, si vous voulez, la participation de la société, de ces paysans à la décision. Et il a créé un système judiciaire qui est le plus moderne d'Europe à l'époque où il le crée, en 1864. C'est révolutionnaire. Et en 1881, il est assassiné au terme d'une série fantastique d'attentats.
Oui,
dans des conditions effroyables. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a été assassiné au moment où il mettait en route une réforme politique qui ouvrait la voie du système constitutionnel à la Russie. C'est-à-dire qu'on peut dire que toute la tragédie du XXe siècle, on ne peut pas dire que ça aurait été évité. Mais en tout cas, L'histoire aurait probablement été différente.
Oui, bien sûr.
Et bon, son fils, évidemment, Alexandre III,
marqué à vie parce qu'il
voyant son
passé.
Père déchiqueté, oui. La première chose qu'il a fait, il a déchiré cet acte qui introduisait un système qui ouvrait.
Hélène Carrère d'Encausse de l'Académie française, Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang. C'est édité chez Fayard. Merci beaucoup de nous avoir permis de nous replonger dans cette histoire qui est une source inépuisable de grands drames, de mystères. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis, il faut lire ce livre avec sous la main, bien entendu, les illustrations et les détails artistiques, notamment dans le très beau, dans le magnifique Saint-Pétersbourg, publié par Emmanuel Ducamp chez Citadel et Masno cette année même. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.